Chers amis, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans l'Épître aux Éphésiens. Nous allons relire le verset clé qui est à la base de notre réflexion sur le Saint-Esprit. Éphésiens 5, verset 18. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Vous vous souvenez que dans notre première étape dimanche dernier, nous avons partager ensemble cinq recommandations importantes pour l'étude déjà générale d'un sujet dans la Bible et plus particulièrement pour l'étude sur le Saint-Esprit. C'était un peu fastidieux parce que faut parfois faire de la théorie, on est obligé de passer par là. Quand vous apprenez le code de la route, vous savez ce que c'est. Avant de se mettre au volant, il y a des étapes qui sont parfois un peu désagréables à vivre. Mais elles sont nécessaires, indispensables. Alors nous sommes donc penchés sur ces cinq recommandations. Peut-être pourriez-vous essayer de m'aider à retrouver ma mémoire concernant ces recommandations. Peu importe qu'elle soit dans l'ordre ou le désordre, nous ne jouons pas au quinté plus, n'est-ce pas? Mais c'est surtout pour essayer de voir si nous retenons ce que nous partageons. Alors, qui d'entre vous pourrait me rappeler simplement en une phrase, hein, une des cinq recommandations faites pour toute étude d'un sujet dans la vie? Pardon. Toute la vie. C'est-à-dire que pour le Saint-Esprit notamment, c'est d'autant plus important de ne pas construire, édifier la doctrine du Saint-Esprit simplement sur la base de l'Ancien Testament, ni même sur la base de l'Ancien Testament en y ajoutant les évangiles, ni même sur la base de l'Ancien Testament des évangiles et des actes des apôtres, mais sur la base de toutes les Écritures. Et en se souvenant que ce qui n'a pas changé depuis la Pentecôte, c'est-à-dire depuis que l'Église existe, se situe essentiellement dans l'enseignement du Seigneur Jésus sur le Saint-Esprit, nous y reviendrons. Lui a vraiment parlé pour tous les temps, à partir de la fin. Et bien sûr aussi, ce que les rédacteurs inspirés, les épîtres, nous ont laissé. C'est ce qu'on appelle la norme, ou l'enseignement normatif, valable pour notre temps, comme pour il y a 100 ans en arrière, et comme pour les 50 années à venir, si le Seigneur ne revenait pas d'ici là. J'avoue que je suis perplexe, je pense qu'il devrait revenir bientôt, très bien. Voilà pour une première recommandation. Envoyez-vous une seconde. Exactement, c'est d'ailleurs par là que nous avions commencé. Il est si facile, simplement, d'endosser le vêtement de conviction de tel personnage, que ce soit celui ou celle qui nous a amené à la connaissance de Jésus-Christ, que ce soit un ami qui a un peu ou beaucoup d'ascendant sur nous, que ce soit tel ou tel théologien, tel ou tel enseignant, tel ou tel évangéliste, prédicateur de passage, que sais-je encore. Et c'est faire l'économie dangereuse de convictions qui soient solides, qui soient bien enracinées, qui ne bougent pas en permanence. C'est ce que l'apôtre Paul appelé dans Éphésiens 4, se refuser à être simplement un enfant flottant et emporté à tout vent de doctrine. Aller soi-même, personnellement, à la Bible et chercher dans toute la Bible de manière à ce que Dieu nous donne des convictions qui résistent aux fluctuations des modes et du temps. Encore une autre recommandation qui voit une troisième recommandation. Dans votre langage. Oui, l'humilité du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a annoncé. C'est un des grands messages du Seigneur Jésus qui se vérifie ensuite dans le livre des Actes et dans les Épîtres. À savoir que le Saint-Esprit est comme un projecteur, c'est une image, braqué sur la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus. Il n'est pas braqué sur lui-même. En quelque sorte, il ne se met pas fortement en valeur lui-même. Il ne tourne pas nos regards vers lui, mais il nous tourne les regards vers le Dieu divin, incarné en Jésus-Christ, et maintenant à la droite du Père jusqu'à son prochain retour. Avec toutes les conséquences que cela a pour notre vie personnelle. À savoir que être rempli du Saint-Esprit va notamment se traduire par le fait que nous ne serons pas centrés sur le Saint-Esprit, mais que nous serons centrés sur le Seigneur Jésus. Parce que le Saint-Esprit qui habite en nous va vraiment nous orienter vers la personne de Jésus-Christ dans notre vie de tous les jours. Donc ce n'est pas forcément celui qui parle toujours du Saint-Esprit qui pour autant est agréable au Père. C'est celui qui dans sa vie de tous les jours est centré sur la personne de Jésus-Christ. Ça c'est encore une recommandation importante. Quatrième recommandation, c'est parfois un peu difficile hein, quand on arrive vers le cinquième cheval, hein. Une autre recommandation. Voilà, le Saint-Esprit est une personne, c'est là-dessus en particulier que nous avons insisté, il est une personne divine, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, nous le croyons de tout notre cœur. Mais cela a bien sûr des conséquences. S'il est la personne de Dieu en esprit, on ne peut pas se conduire vis-à-vis de lui n'importe comment. Dieu n'est pas une sorte d'épicier qui nous donnerait 2 kilos de Saint-Esprit, et puis 3 kilos ensuite, et puis 5 kilos un peu plus tard dans notre vie. Le Saint-Esprit n'est ni une influence. Ça, c'est la fausse doctrine, notamment des témoins de Jéhovah et d'autres sectes. Il n'est pas matière non plus, il est vraiment la personne de Dieu. Ça veut dire que nous devons avoir vis-à-vis de lui, nous le reverrons encore tout à l'heure, pratiquement un profond respect. Un très profond respect. Nous ne manipulons pas le Saint-Esprit, nous ne parlons pas du Saint-Esprit à la légère. C'est lui qui veut dominer sur nous. Voilà pour une quatrième recommandation, la cinquième, qui était d'ailleurs aussi la dernière dans notre liste, celle sur laquelle nous sommes passés assez vite, parce que c'était tard. Est-ce que quelqu'un se souvient de la cinquième recommandation? Oui, merci à votre sœur. Il est l'inspirateur et l'enseignant des Écritures. C'est important. C'est important. Il a inspiré les rédacteurs de la Bible. Il est une autorité suprême dans la compréhension de la Bible. Je ne peux pas comprendre le message de la Bible sans avoir mon interprète, en quelque sorte, avec moi. Exactement comme quand on ignore tout d'une langue, et que l'on doit s'adresser à quelqu'un qui parle cette langue. Nous avons besoin d'un interprète. Et il est intéressant de constater que ce terme paraclet, que nous avons évoqué en parlant de Barnabas, signifie notamment, c'est une de ses traductions possibles, signifie interprète. C'est lui qui décrypte, qui traduit en langage accessible à l'intelligence humaine toutes les profondeurs de Dieu, de sa pensée, son intelligence, de ses desseins, ses plans, de sa mentalité, dans quantité de domaines qui nous sont révélés dans les Écritures. Nous avons vu que Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair, mais que une parole ne peut être audible, ne peut être entendue de quelqu'un d'autre que dans la mesure où cette parole est portée par le souffle. Si je n'ai plus de souffle dans mes poumons, vous ne m'entendez pas. Ma parole est portée par mon souffle. C'est mon souffle qui la rend audible. Le Saint-Esprit est le porteur de la parole de Dieu. Il la souffle en quelque sorte, de manière à ce qu'elle soit audible, non seulement physiquement, mais surtout d'abord spirituellement, aux oreilles en quelque sorte de notre cœur. Ceci, simplement avant de faire un pas de plus, m'oblige à donner ici une petite précision. Il nous est dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Vous connaissez ce texte, où se situe-t-il dans le Nouveau Testament? Merci, 2 Timothée 3. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Est-ce que cela veut dire que l'écriture est simplement inspirée de Dieu dans ses idées, dans ses pensées? Il est important de se poser cette question, parce que si vous allez dans certaines églises, notamment dans un certain nombre d'églises protestantes, vous entendrez des messages dans lesquels le pasteur ou la pastourelle, hélas maintenant, vous diront: ah oui, toute l'écriture est inspirée de Dieu, mais c'est dans les pensées. On peut, dans la Bible, voir la pensée de Dieu. La Bible nous dit clairement qu'elle est inspirée verbalement. C'est-à-dire, non seulement dans ses idées, mais aussi dans ses mots. Je crois que chaque mot des Écritures est inspiré de Dieu. D'ailleurs, Jésus l'a dit d'une autre manière, quand il disait qu'il ne disparaîtrait pas de la loi de Dieu un seul iota, jusqu'à ce qu'il ait tout accompli. Pas un seul iota, c'est-à-dire la plus petite lettre de l'alphabet grec était tout autant inspirée que d'autres lettres. Alors, bien entendu, cela ne veut pas dire que dans nos versions françaises, le moindre détail de lettre soit directement inspiré du Saint-Esprit. La preuve, c'est que nous avons des versions différentes. Ceci est valable dans le texte original. Alors, je ne vais pas entrer dans tous les détails concernant le texte original des Écritures. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas la parole de Dieu sous les yeux, mais ça veut dire que nous devons faire attention, parce que vous avez des prédicateurs qui vous donnent tout un message le dimanche matin, qu'ils appuient soigneusement sur un mot qui existe dans le texte français, mais qui n'existe pas dans le texte original. On peut par exemple composer un très beau message sur un mais que vous avez dans votre texte biblique, et qui en réalité n'existe pas ni dans le texte hébreu ni dans le texte grec, mais qui a été placé là parce qu'il était nécessaire qu'il y soit, de manière à ce qu'on ne comprenne pas de travers la pensée du texte original. Vous comprenez? Ça, c'est très important, parce que parfois, c'est ainsi que les sectes se sont développées. Lorsque les témoins de Jéhovah utilisent cette parole de Jésus aux brigands repentants, je te le dis, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis, ils se basent sur une virgule mal placée, ce n'est pas du tout la pensée du texte biblique, pour traduire ainsi, je te le dis aujourd'hui, de point, un jour tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire qu'ils jouent sur quelque chose qui ne figure pas dans le texte original et qui même est absolument illogique lorsqu'on lit les Écritures sans un esprit d'ordre. Vous voyez donc qu'il faut quand même faire très attention. Quand j'étais à l'école primaire et qu'on apprenait à placer les virgules, il y avait la leçon très célèbre que l'on nous faisait écrire au tableau. Le maître dit, deux points, l'inspecteur est un âne. Et puis ensuite, le maître, virgule, dit l'inspecteur, virgule, est un âne. Et ça ne veut pas dire du tout la même chose. Et donc, il faut faire attention, quand on approche la Bible, de ne pas faire dire à la Bible n'importe quoi en déplaçant des virgules ou en commençant à partir sur un mot qui peut-être n'est pas du tout dans le texte original. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que le Saint-Esprit, même pour parler de lui, a guidé les rédacteurs dans l'utilisation de mots. Pas n'importe lesquels. Il a donné un sens précis à ces mots. Et il veut que nous donnions à ces mots le même sens. Et que, notamment, nous ne prenions pas un mot pour un autre. Imaginez que je sois mécanicien dans un garage, que j'ai un aide à mes côtés, et que j'ai besoin d'un tournevis. Bien entendu, je ne vais pas dire « donne-moi un marteau ». Parce que mon aide va me donner un marteau. Si je suis chirurgien dans une salle d'opération et que j'ai besoin d'un bistouri, je ne vais pas réclamer une seringue ou je ne sais quoi d'autre. Or, c'est ce que nous faisons trop facilement lorsque nous partageons au sujet du contenu de la Bible et notamment sur la question du Saint-Esprit. Nous allons le voir dans un instant. Le baptême du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas la même chose. On m'a demandé dans une église l'an dernier de parler pendant tout un week-end sur la plénitude du Saint-Esprit. Mais je me suis très vite rendu compte qu'en réalité, le sujet que l'on me demandait d'aborder n'était pas la plénitude du Saint-Esprit, mais c'était le baptême du Saint-Esprit. Et il y avait simplement une confusion, c'est-à-dire qu'au lieu de respecter le langage du Saint-Esprit dans les Écritures, eh bien, on prenait des libertés et on prenait la plénitude pour le baptême, ce qui est tout à fait faux. Et c'est comme cela que, notamment dans certaines grandes religions, on s'est éloigné de la vérité. C'est comme cela que le terme rendu par ancien dans le Nouveau Testament, et dans le texte grec, c'est notamment le terme épiscope qui a été traduit par évêque, eh bien ce terme est devenu, en langue française, tout à fait autre chose que ce que la Bible dit de l'évêque. L'évêque n'est pas un personnage dans la hiérarchie religieuse d'une église, ça c'est l'enseignement de la Bible, il est un des responsables collège d'anciens d'une église, hélas, on a pris des libertés par rapport à l'enseignement du Saint-Esprit, et l'évêque est devenu ce que vous savez dans la doctrine catholique. Nous avons dans la Bible le mot repentance. Le mot repentance veut dire un changement de mentalité, un changement dans le monde de la pensée. une sorte d'opération là dans le tréfonds de notre cerveau pour que nous commencions à penser comme Dieu pense. Le problème, c'est qu'il y a eu aussi une dérive et le mot repentance est devenu le mot pénitence. Et le mot pénitence n'a pas du tout le même sens. Et je pourrais continuer et aligner ce matin une quantité d'autres mots. La scène est devenue l'Eucharistie. La confession a un sens dans les Écritures, elle a pris un autre sens dans la doctrine catholique. Ce qui est appelé le mystère dans le Nouveau Testament est devenu le sacrement dans le catholicisme. C'est-à-dire donc qu'on a pris des mots de la Bible, mais au lieu de respecter le sens que leur donnait le Saint-Esprit, on a donné à ces mots un autre sens. Alors nous n'avons pas le droit de faire ceci. Nous n'avons pas le droit d'inventer un langage à notre convenance. Et c'est pour cela que je n'aime pas cette manière de parler, de faire une seconde expérience. Je n'aime pas non plus évoquer un plein évangile, comme si les uns avaient un évangile qui est plein, et les autres, tout en appartenant à l'Église de Jésus-Christ, ont un évangile qui est vide. Il n'y a pas cette distinction dans les Écritures. Dans les Écritures, il y a un faux évangile, et il y a l'évangile de Jésus-Christ, et c'est tout. Alors, ou bien, j'accepte dans ma vie et je proclame par ma vie, par mes actes et mes paroles, l'évangile de Jésus-Christ, ou bien je me situe au niveau d'un faux évangile. Mais il n'y a pas de plein évangile. Ça, c'est une invention des hommes. Nous devons là rester fidèles à la parole de Dieu. Veillez à ne pas mettre une étiquette particulière, à ne pas faire une norme de nos expériences. Parce que comme nous aurons l'occasion de le voir, le Saint-Esprit n'impose pas à tous les croyants exactement le même cheminement. Nous devons tous nous convertir, nous devons tous nous repentir, nous avons tous besoin de régénération, nous avons tous besoin d'être remplis du Saint-Esprit, mais à partir de là, les expériences que nous faisons, vous et moi, sont très différentes les unes des autres. L'essentiel, c'est qu'elles ne s'inscrivent pas en contradiction avec la parole de Dieu. Quelqu'un d'ailleurs a voulu expliquer le danger qu'il y a à vouloir imposer aux autres son cheminement personnel par cette petite illustration. Un récit biblique que vous connaissez, ce sont deux aveugles guéris par Jésus qui se rencontrent. Et ils discutent l'un avec l'autre. Et un des deux dit à l'autre, « Comment Jésus a-t-il fait pour te rendre la vie ?» Et l'autre lui dit, eh bien voilà, moi, je lui ai demandé de me rendre la vue et instantanément, j'ai vu clair, d'un coup. Alors l'autre dit, ça n'a pas pu se passer aussi vite. Je pense qu'il a dû faire comme moi, il a dû d'abord te mettre de la boue sur les yeux et t'envoyer te laver. Et donc il commence à se disputer parce que Jésus n'a pas procédé exactement de la même manière pour l'un et l'autre. Et le commentateur de simplement conclure, c'est ainsi que sont nées les deux premières dénominations, les boueux et les anti-boueux. Voyez ? Alors il y a bien des dénominations qui sont nées de cette manière. Parce qu'on n'accepte pas que le Saint-Esprit puisse nous faire passer par des chemins un peu différents de ceux par lesquels il fait passer notre voisin. Voilà donc pour ces cinq grandes recommandations importante. Alors maintenant, nous allons appliquer ces recommandations à notre sujet sur ce fameux « Soyez remplis de l'Esprit ». Nous allons commencer maintenant à nous pencher sur le mot « Esprit ». On ne s'y arrêtera pas beaucoup, mais on dira quand même deux ou trois choses essentielles. Ensuite, nous nous pencherons sur le mot « rempli » pour essayer de voir ce que le Saint-Esprit a bien voulu dire en utilisant ce terme, qu'est-ce que cela signifie dans les Écritures et pour nous dans notre expérience. Et enfin, nous nous pencherons sur ce petit impératif « soyez » pour voir s'il ne cache pas derrière sa simplicité, tout un enseignement extrêmement riche pour notre vie de tous les jours. Et puis notre conclusion, ce sera de voir comment se traduit ce « soyez rempli du Saint-Esprit » dans la vie de tous les jours. Quels sont les signes que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit? Voilà notre programme. Alors, quelques mots d'introduction sur ce « soyez rempli du Saint-Esprit » d'Éphésiens 5, 18. Première remarque. La première remarque est pour dire que l'expression plénitude du Saint-Esprit est à nulle part dans la Bible. Vous pouvez lire la Bible d'un bout à l'autre, vous ne verrez pas cette expression, cette locution, ces quelques mots, plénitude du Saint-Esprit. Et j'en suis réjoui. On utilise l'expression plénitude du Saint-Esprit parce que c'est commode. Quand on écrit un livre et qu'on a besoin d'y mettre un titre ou quand on annonce une conférence, c'est pratique d'écrire la plénitude du Saint-Esprit. Mais pourquoi cette expression ne figure-t-elle pas dans la Bible? Bien, je pense que c'est parce que le Saint-Esprit lui-même et Dieu lui-même a voulu nous éviter de tomber dans un piège. Un piège dans lequel nous sommes quand même tombés trop souvent. Dieu a fait les hommes droits, ils ont cherché beaucoup de détours. En réalité, quand on parle de la plénitude du Saint-Esprit, on est tenté de penser, justement, que le problème est un peu du côté du Saint-Esprit. À savoir que le Saint-Esprit viendrait en nous par petits morceaux ou par étapes. On en a à un moment donné 10%, et puis si on fait certaines expériences, on va monter à 20%, et puis si on est un chrétien encore un peu mieux, on va monter à 30%. Bref, on a le sentiment que le Saint-Esprit se donne aux disciples de Christ par morceaux. Or, ce n'est pas là ce sur quoi la Bible insiste. Ce que la Bible nous dit, c'est que quand le Saint-Esprit vient en moi, lorsque le Saint-Esprit est entré dans ma vie, au jour où vraiment je me suis repenti de mes fautes, où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, où Jésus-Christ est devenu propriétaire de ma vie, seigneur de ma vie, en m'ayant sauvé personnellement, j'ai reçu le Saint-Esprit dans sa totalité. Je l'ai reçu en tant que personne. Il n'y a pas, quelque part, 40% du Saint-Esprit qui sont restés à la porte. Il est entré en moi. Bon, le mystère, incompréhensible, mais que j'accepte par la foi avec une pleine confiance parce qu'il se vérifie dans son efficacité dans ma vie de tous les jours. Le mystère absolument extraordinaire, n'est-ce pas, c'est que le Saint-Esprit puisse être à la fois en tant que personne en moi, et en chacun de ceux et celles d'entre nous qui ont donné leur vie à Jésus. Ça, c'est un mystère. Qu'il puisse être partout à la fois, en tant que personne, et non pas en tant que moitié de personne. Le problème, c'est que nous ne laissons pas toujours le Saint-Esprit disposer de la plénitude de notre personne. C'est là mon problème. Il est en moi, mais est-ce qu'il a toute la place? Est-ce que dans ma vie, il a toute la place qu'il réclame? Nous allons utiliser déjà, on le réutilisera plus tard encore, notre symbole. Imaginez que ce soit l'un d'entre eux. Si je trempe Maurice Descaires, hein, là, dans l'eau. L'eau représentant le Saint-Esprit. Bien sûr, ce n'est qu'une image. On a dit que ce n'est pas la matière, le Saint-Esprit, mais il est comparé par Jésus lui-même à de l'eau, n'est-ce pas ? Des fleuves d'eau vive. Le problème n'est pas du tout au niveau de l'eau. Il y a de l'eau maintenant dedans, vous êtes d'accord ? Et il n'y a pas une moitié d'eau. On peut parfaitement ensuite examiner cette eau pour voir qu'elle correspond tout à fait à de l'eau. N'importe quel biologiste ou celui qui va étudier toute la question des composantes de l'eau dira oui, mais c'est l'eau dans ta plénitude, c'est pas de la moitié d'eau, c'est pas une espèce de produit d'héroïne, non, c'est de l'eau. Le problème, c'est que l'eau qui est dedans ne peut pas occuper Maurice Decker dans sa plénitude. Pourquoi? Parce que Maurice Decker là est l'idée. C'est vrai. L'eau est là. Mais elle n'occupe que certains compartiments de la vie de Maurice. Donc quand on parle de la plénitude du Saint-Esprit, il faut le comprendre dans ce sens. La plénitude de chacun de nous, n'est-ce pas, de notre personne, est-elle occupée par le Saint-Esprit? Il est en moi. Mais quelle place est-ce que je lui laisse? Ça, c'était la première remarque importante. Maintenant, une deuxième remarque importante. Si vous lisez le Nouveau Testament, vous verrez que l'expression « rempli du Saint-Esprit » ou « plein du Saint-Esprit » est 13 fois dans les écrits de Luc, essentiellement les Actes des Apôtres d'ailleurs, et une fois dans une épître de Paul, Éphésiens 5. Il est intéressant de constater que Paul ne dit, il ne parle qu'une seule fois de cette expression « être rempli du Saint-Esprit ». C'est donc une expression qui appartient d'une manière toute particulière au vocabulaire de l'évangéliste. Vous savez que ce qui est beau, c'est que Dieu, tout en inspirant des hommes pour rédiger les textes, les a respectés. Et les a respectés aussi avec leur vocabulaire. Nous avons tous, vous et moi, un vocabulaire différent. Eh bien, quand Dieu a présidé à la rédaction des Écritures, il a aussi guidé ceux qui ont rédigé les textes de manière à ce qu'ils utilisent leur vocabulaire. Et c'est pour cela que Luc va parler d'être rempli du Saint-Esprit en utilisant ce terme, là où, comme nous allons le voir, Paul va parler d'être rempli du Saint-Esprit, mais en utilisant d'autres termes, un autre vocabulaire, mais qui aura le même sens. D'ailleurs, troisième remarque. Éphésiens 5, 18. Soyez remplis du Saint-Esprit, ne vous enivrez pas de c'est de la débauche. Eh bien, cette recommandation d'Éphésiens 5, 18, ce n'est qu'une des recommandations, tenez-vous bien, sur 73 de cette épître aux Éphésiens. C'est-à-dire qu'à côté de cet impératif, vous avez 72 autres recommandations de Paul dans l'épître aux Éphésiens. Est-ce qu'il vaut la peine de s'arrêter si longuement sur une des 73 recommandations de Paul dans l'Épître aux Éphésiens? Est-ce que nous n'exagérons pas un petit peu? Est-ce que le sujet en vaut bien la peine? Oui. Oui, dans la mesure où le Nouveau Testament en parle abondamment, mais avec un autre langage, avec un autre vocabulaire. Et je vais vous en donner la preuve. Je le disais dimanche dernier, quand Jésus parlait à la Samaritaine et qu'il lui évoquait la source d'eau jaillissant jusque dans la vie éternelle, il faisait allusion à être rempli du Saint-Esprit. Le terme « remplir » n'était pas dans le vocabulaire de Jésus, mais l'idée, le message y était. Lorsque dans Jean 6, 35, Jésus dit à ceux qui s'attaquent à lui, « Mais vous savez, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » De quoi Jésus veut-il parler? D'être rempli du Saint-Esprit. Mais il ne le fait pas avec ce langage tout à fait particulier d'Éphésiens 5, 18. Nous avons vu Jean 7, 37. N'est-ce pas celui qui se tourne vers moi, qui met sa confiance en moi, des fleurs d'eau vide couleront de son sein? Et on sait que au moment où Jésus prononçait ces paroles, se déroulait une cérémonie toute particulière dans les rues de Jérusalem. où précisément on était allé puiser de l'eau et on était en train de répandre de l'eau sur la base d'un texte de l'Ancien Testament. Et Jésus a profité de cette cérémonie au cours de laquelle de l'eau était répandue pour dire, ah oui, mais vous savez, il y a un changement. Cette eau qui est répandue là, qui fait allusion à un texte de l'Ancien Testament, je voudrais vous dire que je suis en train maintenant de l'accomplir. Et parce que je suis venu, bientôt ce texte de l'Ancien Testament va prendre toute sa signification quand j'aurai été glorifié, quand je serai remonté vers le Père après ma mort, ma résurrection. Eh bien alors, les fleuves d'eau vive représentés dans cette cérémonie vont couler, vont déborder de votre vie parce que le Saint-Esprit aura été répandu. Si vous allez dans Jean 10, 10, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Eh bien, lorsque Jean affirme que Dieu veut que nous ayons une vie abondante, il fait allusion, bien évidemment, au fait d'être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est avoir une vie abondante. Lorsqu'un peu plus tard, dans Jean 15, 11, 16, 24, 17, 13, Jésus dit à ses disciples, dans un moment très difficile, qu'il est venu pour leur donner sa joie parfaite, ou sa joie accomplie. Bien, il se trouve que le terme grec qui est utilisé est le même terme qui est utilisé pour parler d'une vie remplie. On pourrait traduire une joie remplie. Être rempli de joie. Une joie entière, une joie totale, une joie débordante. Jésus parlait à ses disciples du fait que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, notre joie est débordante. Éphésiens chapitre 3, verset 14-19, où il est question de la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu que sont appelés à connaître les disciples de Christ. Il prie pour eux, n'est-ce pas, dans Éphésiens 3, je prie pour vous, afin que, ayant reçu Jésus-Christ par la foi, vous puissiez connaître ces dimensions infinies de son amour répandu dans votre cœur. Qu'est-ce que c'est ça? Être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, dira Paul dans son texte. C'est être rempli du Saint-Esprit. Et puis dans Colossiens 2, 9 et 10, quand l'apôtre Paul dit que le Christ, ce chef suprême, qui règne au-dessus de toutes les autorités, n'est-ce pas, vient dans une vie, nous avons tout pleinement. Et le texte grec dit exactement, nous sommes remplis en lui. C'est-à-dire qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de la personne de Jésus-Christ. Voilà quelques remarques qui me semblent importantes pour que nous nous rendions compte, vous et moi ensemble, que ce thème de la plénitude, entre guillemets, du Saint-Esprit, en réalité, est absolument partout dans le Nouveau Testament. Même si dans le vocabulaire, être rempli ou être plein n'est pas fréquent dans le Nouveau Testament. Soyez rempli de l'Esprit. L'Esprit. Première affirmation très forte. Et elle est importante. Il est impossible de recevoir le salut sans recevoir le salut. Peut-être que pour nous qui sommes ici, cela apparaît tout à fait banal. Mais il faut savoir qu'y compris dans les milieux évangéliques, il y a d'authentiques croyants qui contestent ceci. Et qui disent qu'on reçoit le salut par étapes. Or, la Bible est très claire, n'est-ce pas? Romains chapitre 8, verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Aussi simple. Romains, chapitre 8, verset 9. Et comment se traduit cette habitation de ma personne par le Saint-Esprit? La Bible ajoute aussitôt que le Saint-Esprit témoigne dans mon cœur que je suis un enfant. Il le dit à mon cœur. Il exprime en profondeur en moi. Il arrive un moment où vraiment la conviction intérieure est là que je suis habité par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit dit dans mon cœur, Maurice, tu es un enfant de Dieu. Et c'est d'ailleurs dans le même texte, hein, dans Romains 8, verset 16, il est question du témoignage du Saint-Esprit. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons une intimité avec le Père parce que le Saint-Esprit témoigne en nous. C'est lui qui nous fait dire Abba, c'est-à-dire Papa. Le terme que jamais un juif n'aurait utilisé lorsqu'il priait Dieu. On n'avait pas le droit de prier Dieu autrement, normalement, qu'en hébreu. Or, c'était un terme araméen. Et c'était un terme, donc, de la langue courante et qui était réservé aux relations familiales entre les parents et les enfants, papa et ses enfants. Même un serviteur n'avait pas le droit d'utiliser ce terme. Il était réservé uniquement à la relation entre un fils et son père. Et voilà que Jésus renverse tout ça en disant, mais non, par le Saint-Esprit, vous entrez dans une relation intime avec Dieu, ce grand Dieu trois fois saint, il devient votre papa. Et vous pouvez vraiment, avec beaucoup de respect, l'appeler papa. N'ayez pas peur d'utiliser ce langage. Il n'y a pas de langage spécial, de langage sacré, de latin d'église. Non, utilisez votre langue à vous pour parler avec Dieu par Jésus-Christ. Il est votre papa. Ceci dit, est dit en Galates 4, 6 aussi, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba », c'est-à-dire « Papa ». Est-ce que le Saint-Esprit dans chacune de nos vies, ici ce matin, crie cette exclamation? Est-ce que nous avons l'assurance d'avoir vraiment une relation nouvelle avec Dieu que nous voyons comme un papa, parce que nous sommes venus à la croix de Christ, et que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes dans la vie. C'est fondamental, c'est le prince des prédicateurs Spurgeon qui écrivait ceci, « Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes comme des voiliers quand il n'y a pas de vent, ou comme des carrosses sans chevaux. Nous sommes aussi secs que des branches sans sève, aussi inutiles que des charbons sans feu. » Vivre. Donc sans mon esprit, vous ne pouvez pas vivre. J'ai été impressionné il y a quelques années par une publicité, c'était en 87-88 à Orléans d'ailleurs, faite par le comité départemental contre la tuberculose et les maladies respiratoires. Et il y avait des affiches. Ceux qui sont loin ne voient pas le contenu, mais le slogan est remarquable, le souffle, c'est la vie. Et ça, c'est quelque chose de profondément spirituel. Sans le souffle du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avoir la vie. Alors le problème, c'est que, nous le verrons, nous souffrons facilement de maladies respiratoires dans le domaine spirituel. On peut être asthmatique, on peut être bronchiteux, faire de la pneumopathie, quantité d'autres maladies spirituelles qui sont dans les Écritures. Et donc ne pas être rempli du Saint-Esprit. C'était notre première remarque. Il est impossible de recevoir le salut sans recevoir le Saint-Esprit. Vous vous souvenez du texte que nous avions lu dans Jean 14, lorsque nous avions parlé de Barnabas. Dans Jean 14, au verset 15 et suivant, Jésus parle du Saint-Esprit. Jean 14, verset 15 à 18. Et j'aimerais tirer là une ou deux remarques de ce texte remarque importante à cause de tout ce que nous allons lui ensuite dire lorsque nous prendrons le terme rempli. Tout d'abord, je le répète, l'enseignement de Jésus sur le Saint-Esprit est important. Tout ce que Jésus a dit sur le Saint-Esprit doit être examiné attentivement. Parce que, je le redis, ce sont des affirmations valables pour tous les temps. Et j'aimerais ici faire une remarque. Notez-la, cette remarque. Dans l'enseignement de Jésus, Jésus n'a jamais mentionné les manifestations visibles qui accompagneront la venue de l'Esprit. Jésus n'a jamais parlé de langue de feu. Jésus n'a jamais parlé d'un vent impétueux. Jésus n'a jamais parlé de discours en langues étrangères. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ces éléments étaient essentiels, s'il fallait absolument qu'il y ait ces signes dans la vie de quelqu'un qui prétend être rempli du Saint-Esprit, eh bien, cela voudrait dire que Jésus a oublié l'essentiel. Or, Jésus ne parle pas de ces choses. Et il n'en parle pas, pourquoi? Parce que ce n'est pas normatif. Parce que ce n'est pas essentiel à la vie de tous les jours. Parce que dans certains cas, certaines de ces manifestations vont avoir lieu, mais dans d'autres cas, elles n'auront pas lieu parce que le Saint-Esprit est libre dans ces manifestations. Alors, dans cet enseignement essentiel sur le Saint-Esprit par Jésus, vous avez au verset 16, « Ceci, moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. » Certains se souviennent peut-être que j'avais expliqué dans ma première étude sur le paraclet le sens de ce petit mot « autre ». Un autre consolateur. Est-ce que c'est un autre consolateur d'un autre genre ou du même genre? Ça, c'est tout le problème. Parce que quand j'utilise le terme « autre » dans la langue française, je peux parler de quelque chose d'autre, mais qui n'a rien à voir avec moi, qui n'est pas de la même nature que moi. Ou si c'était possible, je peux parler de quelque chose d'autre qui est tout à fait semblable à moi. Nous avons deux mots dans la langue française qui sont issus du grec pour cela. Le mot « autre » qui est rendu par « hétérogène » ou « hétéroclite », ça veut dire « un autre » d'un autre genre, d'une autre nature, un ensemble hétéroclite, n'est-ce pas? Ce sont des objets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est hétéroclite. Maintenant, vous avez une autre possibilité. C'est autre que vous trouvez dans certains mots français, c'est le mot alos. Et là, ce mot veut dire autre en grec, mais autre exactement de la même nature, de la même essence. Et c'est le mot qui est utilisé ici. Il est ici dans notre texte. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre, alone exactement, consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Un autre consolateur de la même nature. Il y a identité, dit-on, de nature entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc cela veut dire que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit a la nature de Dieu, tout comme Jésus-Christ a la nature de Dieu. Et ce que Jésus voulait donner comme premier enseignement ici, c'est que le Saint-Esprit, c'était Dieu venant en esprit. Ou un autre Christ, c'est-à-dire un Christ en esprit. Ceci est très important. Et il ajoute, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alors, je ne cache pas qu'ici, c'est un des nombreux versets des Écritures sur lesquels je m'appuie pour croire que nous ne pouvons pas perdre notre salut. Parce que jamais Jésus n'aurait dit à ses disciples que le Saint-Esprit allait demeurer éternellement avec eux si un jour le Saint-Esprit allait leur faire faux bond. L'éternité, c'est toujours l'éternité. Je viens d'écrire cette semaine une lettre à un ancien d'une église en France parce que le responsable, cette église, m'a interrogé en me disant, écoutez, nous avons dans l'église le trésorier qui ne croit pas qu'on va rester éternellement en enfer. Il pense que celui qui n'accepte pas Christ va rester un certain temps, puis qu'ensuite il sera anéanti et que ce sera fini. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai dû simplement lui dire, mais quand Jésus parle du mot éternel, l'éternité, c'est toujours l'éternité. Le mot éternel n'a pas deux sens, trois sens ou quatre sens. Si Jésus parle 10 fois d'un enfer éternel, c'est qu'il est bien éternel. Donc ici, lorsqu'il est dit que le Saint-Esprit va demeurer éternellement avec les disciples, ça veut dire qu'il demeurera éternellement. C'est-à-dire que même dans le ciel, le Saint-Esprit accomplira encore son ministère, il sera éternellement auprès de ceux qui vraiment de tout leur cœur se tournent vers Jésus. Un autre consolateur. Au verset 23, d'ailleurs, il est dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous. Ce n'est pas le nous de sa sainteté, le pape, n'est-ce pas? Ce n'est pas le nous de l'excellence. C'est le nous, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et c'est par là que j'aimerais terminer ce matin. Ce qui est extraordinaire, quand le Saint-Esprit vient dans la vie de celui ou celle qui se tourne vers Christ, c'est qu'en quelque sorte, en esprit, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui demeure. C'est extraordinaire. Que Dieu vienne habiter en moi, demeurer en moi, pas séjourner. Parce qu'il y a un terme qui pourrait être traduit par séjourner. Ici, c'est demeurer. C'est-à-dire, sous-entendu, habiter de manière permanente. Est-ce que nous réalisons ce que ça veut dire? L'apôtre Paul reprendra cet enseignement, par exemple, dans 1 Corinthiens 3, 16, 17. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, 17. Un texte important. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, le sanctuaire de Dieu, un terme très précis, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et si vous allez au chapitre 6, versets 19 et 20, chapitre 6, versets 19 et 20, ne savez-vous pas que votre corps, votre personne, est le temple, le sanctuaire du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même, vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent. Que nous réalisons. Parce que c'est dans cette perspective que s'inscrit le message sur être rempli. Il nous faut tout d'abord pour réaliser l'importance révolutionnaire d'être habité par Dieu lui-même. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous le croyons? Si vraiment nous sommes entendus, est-ce que nous croyons véritablement que le Saint-Esprit habite en nous de manière telle? Parce que si nous le croyons, ça va changer beaucoup de choses. Je voudrais donner simplement deux exemples. Peut-être les ai-je déjà donnés dans le passé, mais simplement. Quand Israël était au désert, il y avait des dizaines, des centaines, voire des milliers de tentes. Des tentes magnifiquement rangées, ordonné, selon un plan mis au point par Dieu lui-même et transmis à Moïse. Ceci tout autour du tabernacle. Qu'est-ce qu'on faisait dans ces temps? Si vous lisez un certain nombre de passages de l'histoire d'Israël au désert, vous verrez qu'on faisait vraiment de tout dans ces tentes, comme on fait aujourd'hui de tout dans nos maisons. On y faisait des choses bien, mais on y faisait aussi des choses un peu moins bien. Par exemple, c'est dans une de ces tentes que sous ce qu'on appellerait aujourd'hui le tapis de sol, un certain Achan avait caché ce qui était dévoué par interdit, ce qui était réservé à l'Éternel. De manteaux, de l'or, etc. Et ça a bloqué la vie du peuple d'Israël. Maintenant, il y avait une autre tente. Et dans cette tente, pas question de se conduire n'importe quoi. Il y avait des règles bien précises. Tout d'abord, il y avait le lieu saint. Et puis il y avait le lieu très saint, le saint des saints. Le lieu saint était réservé aux sacrificateurs et aux souverains sacrificateurs. Mais le lieu très saint, où vraiment Dieu acceptait de résider, de manifester sa présence, ce qui était en quelque sorte le marchepied de Dieu au milieu de son peuple d'Israël, alors là, que de précautions. Et vous savez même que quand le souverain sacrificateur entrait au jour des expiations une fois par an dans ce lieu très saint, non seulement il avait des clochettes sur sa robe pour qu'on puisse le suivre et savoir à tout instant s'il bougeait encore, s'il était encore vivant, parce qu'il pouvait être foudroyé par la gloire de Dieu s'il entrait en état d'impureté. Alors, si on n'entendait plus les clochettes, eh bien, on savait que quelque chose de grave s'était passé. Mais plus encore, dans la tradition juive, on a ajouté une corde, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il fallait pouvoir le sortir, le tirer hors de là, sans pénétrer dans ce Saint-Esprit. Vous avez vu la différence de conduite entre l'étente et la tente? La grande différence, c'était que dans le Saint des Saints, la manifestation de la gloire de Dieu était là. À partir du moment où mon corps, où ma personne, devient le sanctuaire du Saint-Esprit, vous ne croyez pas que ça change? Imaginez que je me promène dans les rues d'Orléans, les rues de la République. Et puis vous me voyez, la rue de la République, gambader follement, plein de joie, comme un gosse. Et en gambadant, je joue avec mon porte-voix. Youpi! S'il y a beaucoup de soleil, vous pourrez tirer éventuellement des conclusions. Ça, je peux le faire. Ça, je peux le faire dans la mesure où je n'ai qu'un porte-monnaie dans lequel il y a 15 francs. Je veux dire, si quelqu'un passe, puis le prend au passage, je n'en ferai pas une dépression nerveuse. Parce que je suis riche de très peu de choses. J'en ferai pas une maladie. Mais maintenant, imaginez qu'un autre jour, vous me rencontriez dans les rues d'Orléans, rue de la République, et que vous voyez Maurice Decker, il l'a, là, le long de la rue, pas loin d'ailleurs de la Banque de France, hein, et je suis en train de lancer un lingot d'or en l'air. Youpi! Là, vous allez avoir de sérieuses inquiétudes. Non seulement parce que ce serait vraiment drôle, mais surtout aussi parce que ce serait dangereux de ma part. Parce que 15 francs, ça va encore, c'est supportable pour nous, ici. Tout est relatif. Mais un lingot d'or. Vous comprenez? Là, suivant la richesse que je transporte sur moi, mon attitude va être différente. Et ça, c'est le premier grand message que Jésus a voulu laisser à ses disciples. Quand le Saint-Esprit sera venu, le Consolateur, et c'est ce que Paul a répété, lorsqu'il sera dans votre vie, mes amis, vous ne pourrez plus vous conduire n'importe comment. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Sa richesse est extraordinaire, sa sainteté est grande. Donc chaque fois que vous vous lèverez le matin, que vous vivrez votre journée, vous vous souviendrez. Dis, le Saint-Esprit habite en toi. Tu peux tout de même pas te conduire n'importe comment. Parce que comment les autres vont-ils voir que le Saint-Esprit habite en toi si tu te conduis? Ça, c'est le grand message de la Bible sur la venue du Saint-Esprit. Lorsque David, vieillard, il était dans sa 71e année, a rassemblé le peuple pour lui faire ses dernières recommandations, notamment sur la construction du temple, il lui a dit ceci: « Ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel. » 1 Chronique 29, verset 1. Et il a expliqué que parce que le temple de Salomon n'était pas pour un homme, mais pour l'Éternel Dieu, il avait mais vraiment fait tous ses efforts pour mettre de côté les choses les plus belles, les plus riches. Il avait préparé de manière extrêmement soigneuse, n'est-ce pas? Parce qu'il savait que c'était pour Dieu, c'était pas pour les hommes. C'était pas un palais humain. Il fallait que ce soit encore plus beau, n'est-ce pas? Bien, je dirais que dans le Nouveau Testament, c'est notre vie. C'est vrai que notre corps est un vase fragile, un vase de terre. Et plus on avance dans la vie avec Christ, plus on réalise notre fragilité. Mais en même temps, je sais que je suis un palais. Par la régénération, parce que le Saint-Esprit est venu habiter en moi, je suis à la fois un vase et un palais. Un palais, pas pour un homme, pour l'Éternel Dieu. Il habite en moi. Et ça doit donc se traduire, se voir de certaines manières dans ma conduite de tous les jours. Prenez Marie. Hein, Marie, quand l'ange lui a dit, mais tu vois, tu vas devenir enceinte, la puissance du Saint-Esprit te couvrira. Et tu vas porter en toi un enfant, le fils du Très-Haut Emmanuel, Dieu avec nous. Qu'est-ce que vous croyez qui s'est passé? Cette Marie qui était comme toutes les mères pieuses en Israël, qui pensait que peut-être, aussi seulement, elle pouvait être celle qui porte le Messie. Vous savez, les femmes pieuses en Israël, toutes rêvaient, quand elles connaissaient bien l'Ancien Testament, comme Élisabeth, comme Marie, comme Anne, comme d'autres, n'est-ce pas? Elles rêvaient d'être cette Vierge de Bethléem. Vous croyez pas que ça a changé quelque chose à sa vie? Je sais pas s'il y a une maman qui porte un bébé en son sein parmi nous aujourd'hui. Mais on sait ce que c'est, n'est-ce pas, quand on est maman. Et que, on découvre qu'on porte une vie toute nouvelle, fragile, qui doit se développer le plus harmonieusement possible pour qu'on puisse mettre au monde le plus beau des bébés, n'est-ce pas? Même s'il est horrible, mais il sera beau de toute manière, hein. On sait ce que c'est, hein. Les nouveaux bébés, ils sont toujours beaux par les parents. Même quand les voisins viennent à la maternité, ils disent, ouais, il est un petit peu de travers encore pour le moment. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors on va faire attention à sa santé. Ça, c'est le drame aujourd'hui. On n'a même plus de respect, ni pour son corps, ni pour le petit être qui vit. Alors on fume, on boit, on voit des spectacles qui met le pauvre bébé à l'intérieur. Hein? Mais une maman qui veut mettre un bel enfant au monde, va faire attention. Sa vie va changer, elle ne va pas côtoyer n'importe quelle situation. Elle va devoir apprendre à se reposer, à ne pas prendre certains médicaments, à éviter certaines maladies contagieuses. Il y aura des visites médicales, etc. N'est-ce pas? Pourquoi? Tout son comportement est complètement révolutionné par le fait qu'elle a changé de statut. Elle est mère. Il y a en elle une vie. Ça, c'est ce qui est arrivé à Marie. Et pour elle, c'était particulier parce que c'était Emmanuel qu'elle portait en Suisse. Son corps était d'une manière toute particulière le sanctuaire du Saint-Esprit. Elle avait été couverte par le Saint-Esprit. Et le Christ, alors, parole faite chair, était en train de se développer en elle. Voyez-vous, l'exemple de Marie devrait nous aider à réaliser l'impact de la présence du Saint-Esprit du Christ en nous dans la vie de tous les jours. Nous allons nous arrêter là. Nous examinerons la prochaine fois le terme rempli avec quelques remarques préliminaires aussi pour essayer de voir ce que la Bible veut dire quand elle utilise ce terme rempli. On réutilisera d'ailleurs tout le matériel qui est là pour bien comprendre ce que cela peut signifier. Je voudrais que nous prions encore, Seigneur, pour te remercier. Je ne comprends pas, Seigneur, comment tu as pu abaisser ton regard vers moi pour faire de moi le sanctuaire du Saint-Esprit. La seule chose que je sais, c'est qu'il a fallu la mort de Jésus sur la croix, le sang versé, le pardon des péchés, la purification intérieure. Et ça, tu l'as fait. Et je te remercie pour le témoignage intérieur du Saint-Esprit qui me dit, tu es mon enfant. Tu as un Père qui ne t'abandonnera jamais. Ô Seigneur, nous qui t'appartenons, nous te disons un grand merci pour la liberté que nous avons par le Saint-Esprit de pouvoir t'appeler Abba, Papa. Merci pour cette relation. Merci pour tout ce que cela peut changer pendant cette semaine qui vient dans notre vie à chaque jour. Nous te bénissons et nous te demandons de mettre ton sceau sur cet enseignement dans chaque cœur. Dans le nom du Seigneur Jésus.